deuil en Océanie, pardon. Et donc, je voulais, à travers ce recueil, donc, quelque part, chercher avec mon éditeur un titre qui sonne autrement, qui résonne autrement et qui touche, qui parle de l'Océanie, mais qui, d'une certaine manière, essaye un peu de faire sonner une sonorité de l'imaginaire, de quelque chose qui vient d'ailleurs, ici, en France. Donc c'était un peu l'objet un peu de ce titre. Et la taraudière, parce que la taraudière chez nous, c'est le tarot, c'est aussi la femme. Ça représente c'est l'aliment, l'élément féminin, comme l'igname représente l'homme.
La femme, c'est-à-dire la fécondité.
La fécondité de la femme, donc au sens symbolique, sacré, donc en Océanie. Et dans les clans, dans les familles en Océanie en général, on utilise le tarot parce que c'est le lien avec les femmes quand les clans se marient. C'est le lien de la relation. C'est le lien de la relation, c'est le lien qui lie les individus entre eux. Et on utilise cet aliment-là dans la coutume. C'est un geste de partage et d'échange et de lien et de relation. Avec l'igname qui représente l'homme, donc ce sont ces deux éléments, ces deux aliments qui, au sens sacré et symbolique et on va dire tout simplement social, c'est ce qui relie les individus entre eux avec le monde, je vais dire entre guillemets, notre forme de métaphysique, elle est existante à partir de ça, dans ces choses-là du vivant, de tous les jours. Qui est pensé à travers les aliments, mais aussi à travers les éléments de la nature. Et je voulais rassembler toute cette pensée à travers ce petit titre, qui pour moi, donc c'est pour ça, pour moi, il veut dire beaucoup de choses, et la femme. La femme comme pensée végétale. La pensée végétale dans l'Océanie et dans la pensée mélanésienne. C'est la pensée végétale de la pensée de l'homme. Et pour moi, c'est tout ça que derrière ça draine, ça irrigue, ça transmet dans le monde.
Ça diffuse aussi. Peut-être qu'on peut, Denis, lire, pour donner à entendre, tu parlais de la sonorité tout à l'heure, peut-être lire un premier poème de la taraudière.
Donc l'astre balassore. Balassore, c'est une étoffe qu'on attache, qui est faite en peau, en écorce de bois, qui est l'écorce de figuier, ou bien du banyan. Et cette écorce-là, on la frappe, elle devient un peu comme du tissu, là, et on l'attache au bout des perches sur les champs d'igname. Au temps des anciens, c'était une manière pour eux de célébrer le souffle de vie. C'est célébrer le vivant, c'est célébrer le monde des esprits, c'est célébrer l'équilibre entre les êtres et la cosmogonie, l'univers, c'est célébrer l'équilibre entre l'homme et la nature. Et l'astre balassore, ça porte le nom de l'astre parce que pour moi je l'ai imaginé comme un astre. C'est-à-dire l'astre de mon imaginaire, de ma pensée, mais aussi l'astre de ce que nous avons reçu depuis tous ces millénaires, qui est devenu en nous une constellation de pensée. L'astre balassore. Je n'aime qu'une seule peur. Il grandit en plusieurs corps, l'astre aux couleurs balassore. Que je te chérisse d'une sève lovée. Dynastie divine, ma primitive en toute beauté, ma communion à l'austral lactée d'infinité, voiture et fusée me distraient. Tout ce qui fut et sera est peuple en moi. La perfection est un ancêtre fait de bois, ancêtre qui pousse en milliards de mois. Ancêtre est assis en soi, et l'arbre est une pierre qui donna le chemin d'en faire. Toute conquête spatiale restera à ma lisière, tant entre des mains pauvres de Naravert. La technologie est née éventrée d'une seule mère. Pour mot de civilisation, insulte sa poussière. Accourez de patience devant ce rêve. Rien ne me sert à tout de vous dire. Je ne doute de rien qui nous réserve d'autre suite. Tout élan fait braise à nos courses. Un mal qui dénombre la trace d'une ombreuse source. Jamais je n'ai cru de te croire cette chose due, au plus pur d'autres traces de papure. L'or des espoirs est une goutte malléable, or le château est une loge éperdue. Rien ne me guette, j'ai à l'œil de te dire, ton jour est traduit de suite navigant. Tiens-toi, égo serviteur, si jour ira au-delà du ça, l'œuvre subsiste en art surpris. Entre mains mondes d'instinct s'enfuit le cri d'Atai.
C'est le premier poème du recueil, L'astre Balassor, c'est ça. Quand on le découvre, j'imagine que beaucoup le découvrent ici. Peut-être que certains ont déjà lu la poésie de Denis Pourhawa. Il y a des éléments qui paraissent évidents, simples, et d'autres pas du tout, mais la poésie, elle est là pour nous parler autrement. J'ai noté « Tout élan fait braise à nos courses », c'est une très belle poésie. Pourquoi avez-vous choisi de placer ce poème en début de recueil ?
Oui, parce que je... et quelque part un autre. Je est quelqu'un d'autre en littérature, quelque part. Je n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est je. Et je souhaitais lire L'astre Balassor avec ce jeu de jeu qui est un jeu autre. Et je l'ai écrit sous cette forme-là, le jeu qui n'est pas le jeu personnel, mais qui peut être aussi le jeu impersonnel. C'est toute la complexité de la pensée mélanésienne. Tout à l'heure, monsieur et notre ami Frédéric disait, en Nouvelle-Calédonie, tu es là, dans un endroit, et il y a toujours des regards qui te regardent. Tu n'es jamais seul. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Et le jeu... c'est nous, c'est un peu ça, c'est ce jeu-là. On n'est jamais nous, jamais seul, et quelque part, on est autre chose que nous-mêmes. Et c'est ce jeu-là. Et oui, je voulais le partager avec le public pour me présenter, parce que je est un autre, et je est multiple dans notre façon de penser l'individu. En Océanie et en Nouvelle-Calédonie. Et je voulais pénétrer dans ce lieu, ce haut lieu de la culture française et parisienne, par cette forme de présentation de ce que je suis, quelque part.
C'est très beau, comme forme de présentation. C'est très beau. En 2010 est paru donc ce recueil, c'est ça ? Et vous le présentez, je passe du tu au vous, hein, je ne sais pas trop pourquoi, mais peu importe, à Nouméa, lors d'un salon du livre, c'est ça ?
Oui.
Notamment. Et puis vous découvrez aussi, alors, on bifurque et on bifurque pas, en tout cas vous découvrez l'œuvre d'Édouard Glissant à ce moment-là.
Oui.
Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que, effectivement, la Taraudière, elle puise au cœur de la culture kanak, puisqu'elle puise dans la terre, mais pas que, finalement, puisque Glissant vous aide à vous ouvrir, disons, au monde, Et il y a par exemple cet extrait que vous utilisez. Alors c'est intéressant, quand on est ami Facebook avec Denis Pouraoua, il y a des extraits comme ça, pas seulement des œuvres citées, mais des réinventions qu'il fait. Et Glissant sonne beaucoup dans ce que vous publiez sur Facebook. Par exemple, le dernier post de Denis, et je peux le dire puisque c'est public, enfin pour les amis, mais là on est entre nous, donc on est entre amis, ça sonne comme du Glissant et c'est pas signé Glissant, donc c'est du Denis Pouraoua. La littérature, c'est se dire une pensée relation, dire le lieu d'où l'écriture est née pour faire le change des espaces-temps, dire la géographie de l'imaginaire viral d'une écriture. Voilà. Et Glissant qui disait notamment « Le monde se créolise », c'est-à-dire les cultures du monde mises en contact de manière foudroyante et absolument consciente aujourd'hui les unes avec les autres, se changent en s'échangeant à travers des heures irrémissibles, des guerres sans pitié, mais aussi des avancées de conscience et d'espoir qui permettent de dire, sans qu'on soit utopiste, ou plutôt en acceptant de l'être, que les humanités d'aujourd'hui abandonnent difficilement quelque chose à quoi elles s'obstinaient depuis longtemps, à savoir que l'identité d'un être n'est valable et reconnaissable que si elle est exclusive de l'identité de tous les êtres possibles. Et c'est cette mutation douloureuse de la pensée humaine que je voudrais dépister avec vous. Ça, c'est extrait de Poétique de la relation, mais en 2010, lorsque vous présentez la Taraudière à Nouméa, vous découvrez tout le monde de Glissant.
Tout à fait, oui. Glissant, pour moi, le pense, je l'exprime comme dirait Aimé Césaire, comme soleil de nos consciences, comme Jean-Marie Tubaou. C'est-à-dire, je mets Jean-Marie Tubaou et Édouard Glissant sur le même soleil, sur la même sculpture de la pêche fêtière. Elle est à double visage pour ce qui est pour moi de l'outre-mer francophone. Je pense la pensée d'Édouard Glissant et la pensée de Jean-Marie Tubaou comme cette flèche pétière-là sur la pirogue de l'outre-mer, sur la pirogue de notre écriture à nous francophones en général. Pour moi, c'était important de le dire comme ça, là, aujourd'hui. Je te remercie d'avoir posé la question parce que sur la Taraudière, pour moi, je l'ai laissé 5 ans naviguer. Je voulais savoir où est-ce que la Taraudière m'emmenait. Après l'édition de Tain Kanaké qui est un album jeunesse, mais qui est pour moi plus qu'un album jeunesse, c'est mon premier mouvement. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain qui a fait des études, je suis tout simplement un autodidacte. Je suis venu à l'écriture, peut-être qu'on pourra en parler, c'est venu quelque part, il y a un cheminement. Mais mon premier acte d'écriture vient de cet album d'écriture-là, de cet album jeunesse, pardon, de Tain Kanaké, l'homme aux 5 vies, où j'ai posé ma première main avec ma première pensée. C'est-à-dire que c'est ma première pensée que je mets en écriture. Avant ça, je n'ai jamais édité. Pour moi, cet ouvrage, cet album-là est très important dans l'acte de l'écriture, mais dans l'action, c'est-à-dire dans le fait de d'écrire ma pensée. Parce que ma pensée ne s'écrit pas. La pensée mélanésienne, la pensée kanak ne s'écrit pas. Elle s'exprime et elle se projette dans le temps. Ce n'est pas une pensée qu'on fixe. C'est une pensée exprimée et projetée dans l'espace-temps. Le jour où je décide de le mettre en écrit sur une forme papier, pour vous dire, je suis resté enfermé chez moi et j'ai dû poser les questions à mes astres, c'est-à-dire à la constellation de mes ancêtres, à demander... si mon acte d'écriture, le fait de figer la pensée exprimée dans l'espace-temps, portait atteinte à la cosmogonie, à l'équilibre de l'espace, du temps, à l'équilibre des particules dans l'invisible. Il m'a fallu faire cette prière, cette pénétration de quelque part de mon de mon être, de mon individu, chez moi encore, dans mon pays, pour me demander si, quelque part, j'avais le droit de fixer, j'avais le droit d'arrêter la pensée qui a été exprimée depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, qui était la pensée de mes ancêtres, de nos ancêtres. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec moi-même, mais je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti avec.
Résolu, quoi.
Je l'ai résolu quelque part avec l'écriture. Cette question-là a été posée par le Centre culturel Tibaou à l'époque, en 1998, donc c'était en Nouvelle-Calédonie, la question du passage de l'oralité à l'écriture. Donc c'était une question qui a été posée au Centre culturel Tibaou et dans tous les clans de Nouvelle-Calédonie, dans toutes les aires coutumières, pour que les anciens, les chefferies, puissent apporter une réponse, à savoir, est-ce que l'on peut écrire la pensée? Est-ce que l'on peut écrire la coutume? Est-ce que l'on peut écrire la parole kanak? Et j'étais forcément, moi aussi, faisant partie d'un clan, mon nom, le nom que je porte est le nom d'un clan, et le nom d'un système, d'une organisation coutumière, et je me devais, moi aussi, en tant que responsable, parce que j'ai un statut dans ma fonction en tant que la coutume, et de penser, de réfléchir à cette question qui était une question contemporaine, moderne pour ma génération. Et Théen Kanaké est venu pour moi comme un geste de rencontre, un geste de partage et un geste de connaissance. C'est-à-dire que l'écriture est devenue pour moi un geste de partage et de connaissance. Et je l'ai abordé sous cette forme-là. On m'a demandé une forme précise pour cet ouvrage, pour cet album, et pour écrire une parole ancestrale, qui est la parole de Théen Kanaké, qui est le pays Paiti-Tiamouki, en Paiti en particulier.
Et Théen Kanaké, c'est
un mythe fondateur. Un mythe fondateur kanak qui est encore aujourd'hui existant dans des clans. Les clans Paiti continuent à faire leur mariage, leur lien, parler chez eux durant les coutumes, suivant la généalogie de Théen Kanaké. Et ce geste a pu être possible car Jean-Marie Tibaou l'avait quelque part offert à l'universel, on va dire. Mais plus que l'universel, comme dit Édouard Glisson, c'est la relation. Jean-Marie Tibaou l'a offert à la relation. C'est la relation avec l'autre. La relation de soi avec chacun de nous. Et c'était dans ce geste-là donc, que je me suis proposé donc, de participer avec ma pensée, mon écriture, et écrire un mythe fondateur kanak. C'est-à-dire la seule écriture que j'ai pu trouver, creuser jusqu'à aller le chercher dans ses respirations, dans ses torsions, dans ses tonitruances, tout du mot, de la langue, de la pensée, de l'esprit. La seule forme littéraire que j'ai pu trouver pour écrire ce conte, c'était la poésie. Il s'est trouvé que seule la poésie pouvait parler d'un mythe fondateur kanak. Et en tout cas, en l'occurrence, là, du mythe kanak. Donc, la poésie, c'est le geste par lequel je pénètre la pensée kanak, la pensée mythologique, pour la rendre en relation par l'écriture, par la littérature, par le... C'était dans la question qui était posée par la Centre culturel Tibaou à l'époque, passer de l'oralité à l'écriture.
Oui, un livre n'existe pas comme ça seulement. Il existe par cette filiation, par tout ce que vous intégrez, disons, comme élément qui lui permet d'exister. Il faut dire aussi que dans ta famille, tu viens d'une mère institutrice, c'est ça ?
Mes tantes.
Tes tantes, c'est ça.
Et c'est en ça... que je suis un peu parti un peu
Non, mais que loin, ils sont pas.
Mais la relation est là.
Détour, donc on revient.
Le lien est là pour moi. C'est vrai que là, tu me ramènes, c'est le lien. La tarodia, je voulais le laisser exister hein, pendant 5 ans, je le disais tout à l'heure. Et pendant 5 ans, je me suis dit, non, je n'écris plus rien. Je ne publie plus rien, je ne fais plus rien. Je laisse la tarodière me guider. C'est ma première édition en France, ici à Paris. Et je me suis dit, c'est cet ouvrage qui va faire mon chemin. C'est mon geste. C'est mon geste d'ouverture, c'est mon geste de relation à travers l'écriture. Et j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il me guide, où est-ce qu'il m'emmène, où est-ce que cette relation m'emmène, où est-ce qu'elle m'a, qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Et pendant 5 ans, je me suis laissé guider par la tarodière, et la tarodière m'a offert la relation. Elle m'a guidé, elle m'a fait rencontrer des poètes, des auteurs. Et plus que les poètes, les auteurs, les bibliothécaires et les éditeurs, c'est avant tout un public. C'est un public que j'ai rencontré. Et c'est très important pour moi dans ce cheminement-là, quelque part un peu mystique, sacré, silencieux, je vais dire, qui fait partie de ma bulle, donc de cheminement dans l'écriture, parce que c'est bien l'écriture dont on parle aujourd'hui. Et c'est ce geste-là, oui. Ce geste-là, la tarodière m'a permis pendant 5 ans de créer de la relation. Et c'est en ça que je voulais faire un lien avec Jean-Marie Tjibaou et Édouard Glissian par rapport à la pensée de Jean-Marie Tjibaou, qui est la pensée de Tin Kanaké. La pensée de Tin Kanaké, qui est aujourd'hui, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on a fêté, commémoré plutôt, les 40 ans de Mélanésia 2000. Mélanésia 2000, qui est un grand festival qui a rassemblé pour la première fois à Nouméa le peuple kanak et les Européens.
Denis, il faut dire, peut-être que tout le monde ne sait pas, Mélanésia 2000, ce n'était pas en 2000. En 1975, c'est ça ?
En 1975,
oui. Voilà. C'était le premier grand festival artistique à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avec un projet qui était porté par les idées de Jean-Marie Tjibaou. C'était quoi, Mélanésia 2000 ?
Mélanésia 2000, moi, à l'époque, moi, j'étais bébé. Hein. C'est-à-dire, le souvenir que j'ai... J'avais un an, ouais. J'étais sur les épaules de mon père, et on descendait la colline, comme ça, de Plage 1000. J'ai su que c'était Plage 1000 après, mais j'étais sur les épaules de mon père. On était venus avec une délégation de Canala, avec... la danse de la Cousutane, du plature, avec les paroles des coutumiers. Les images que je retiens, c'est la terre, les danseurs, parce que je dormais dans la case, les cases ont été construites, il y avait de la poussière. Les images, c'est la poussière qui monte dans le ciel, avec les danseurs. Et puis, comme j'étais petit, donc j'étais pratiquement dans la poussière tout le temps. Donc, tout le temps, je prenais la poussière et... Et j'étais dans la case des femmes. Où la case des femmes, il y avait ma mère et les tantes qui étaient à seins nus. Et je me rappelle même que des fois, j'étais en train de boire le sein. J'avais un nom, des fois, je prenais le sein d'une maman, d'une grand-mère. Je passais de
ça. Tu as un souvenir de tout ça ?
J'avais un souvenir. Et c'est étrange parce que j'avais ce souvenir-là et j'avais du mal avec ce souvenir-là à. Comment dire à, oui, à le réaliser en fait, à me dire que vraiment je l'ai vécu. J'avais du mal et un jour j'ai posé la question à maman, à ma mère, pardon. J'ai posé la question à maman. Je me suis dit, il faut que je sache, il faut que j'ai la réponse de maman parce que c'est pas possible. Et ça s'est fait en 1998 d'ailleurs, au moment où toutes les questions se posaient sur le centre culturel Tjibaou. Je me suis dit quand même, on construit un centre à cet endroit, à ce lieu où a eu lieu le rassemblement de tout le monde, il y a de ça 75, et je me rappelle de ce petit souvenir, et je ne sais même pas si c'est vrai, ou est-ce que je l'ai vu dans un film, ou est-ce que je l'ai vu dans un livre, d'où me viennent ces images-là, ce souvenir. Et je lui ai posé la question, elle me dit, en effet, ouais, tu étais bébé, mais on te portait. Et je lui ai raconté, je lui ai dit, ouais, mais tu sais, je me rappelle quand on était dans la case, et que vous étiez là, et puis il y avait le feu, il y avait elle m'a dit, non, tu ne peux pas t'en souvenir, tu étais bébé. Et je lui dis, mais si, je m'en souviens très bien. Elle me dit, mais. Et je lui racontais, elle me dit, oui, c'est vrai, tout à fait, ouais, c'était vrai. Donc, c'était dans ma mémoire. Là, je ne pouvais plus fuir. Je me disais, oui, quelque chose est inscrit en moi. Il y a quelque part le lieu. Le lieu dont parle Édouard Glissant et l'espace-temps dont parle Jean-Marie Thibault, dans la façon dont on pense le monde, dont on pense l'espace autour de nous et comment on est habité, comment on est influé de tout ça. Et oui, ma naissance, quelque part, elle vient aussi de là. Je suis né là autrement, mais je suis né peut-être par l'imaginaire, l'imagination. C'est ce qui m'est resté, c'est cette image qui m'est restée dans la tête, de la poussière qui monte, des pas de danse, des pas, des sons de musique, du feu, de tout ce monde-là. Et j'ai vécu depuis toute mon enfance, en grandissant jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, où j'ai osé poser la question à maman, et j'avais toujours cette image-là en tête. Et ça m'est resté encore, mais surtout que ça m'a donné cette énergie-là pour écrire un kanaké, pour me dire quelque part, il y a un geste qui a commencé à moi, et que je pouvais l'emmener, je pouvais essayer de le guider, je pouvais essayer de le sculpter, comme le sculpteur.
La taraudière, on disait 2010, et 5 ans après, tu te dis, tu as bien fait d'attendre 5 ans, de laisser vivre, comme tu le disais, le recueil de poèmes.
Oui, ça m'a révélé beaucoup de choses durant les 5 ans, la relation avec l'écriture, la relation avec le public, la relation avec moi-même, avec le jeu que je ne suis pas, avec le moi. Le moi où, je ne sais pas, il y a le moi de la psychologie, il y a le moi de moi, chez moi on dit moi, c'est demeure, moi. Moi c'est la demeure, c'est la maison. On est avant tout une demeure, avant d'exister. Or, dans la pensée kanak, la demeure, c'est la demeure où on rassemble les hommes. Mais le corps de l'homme n'a de corps qu'à partir du moment où il est en collectif. C'est à partir de ce moment-là où on a un corps. Avant ça, on n'a pas de corps, on a juste l'esprit. L'esprit précède le corps dans notre pensée. L'esprit vient avant la matière. Donc là, on rejoint Engel, Heidegger, toute la pensée métaphysique. Nos penseurs à nous, comme je dis, je salue un grand monsieur que je vois au loin, un grand homme aussi de notre pays, qui a écrit sur le pays Paichi. Oui, on est dans cette pensée-là, oui, aussi. Nos anciens étaient dans cette pensée-là. J'ai grandi à Kanala, comme tu le disais tout à l'heure, et avec les anciens, la première école, c'était l'école de la pensée. C'est-à-dire que j'ai eu mes tantes qui étaient mes professeurs de français. Quand tu me posais la question, est-ce que j'avais appris le français par ma mère ? J'ai appris le français par maman, mais surtout par mes tantes. Mes tantes qui étaient mes maîtresses de français à l'école, et le français, je l'ai appris dans ma commune, à Kanala, sur la côte est. J'ai appris le français dans ma tribu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas appris à nos mères. Comme beaucoup croient qu'on est obligé de partir de nos tribus, du nord de la Grande Terre, pour apprendre le français à Nouméa. Non, moi j'ai appris le français à Kanala. Et ce sont mes tantes qui m'ont appris le français. Et mon lien avec la langue française, la relation que j'ai avec la langue française, vient de mes tantes qui m'ont appris le français, qui m'ont appris à écrire, qui m'ont forcé à écrire. Parce que je ne voulais pas écrire le A, c'est-à-dire le A de l'alphabet, je ne voulais pas écrire le A comme mes tantes m'apprenaient.
Tu voulais écrire comment ?
Parce que le A, au tableau, il y avait les lignes, là, en japonais, il fallait écrire le A au milieu. Et moi, le A que j'avais en tête, c'est le A de ma grand-mère, qui, elle, faisait des marmites en terre cuite. C'était les marmites en terre cuite. Et ce que j'avais retenu d'elle, ma grand-mère, c'est que quand elle faisait les marmites, elle faisait la spirale, le cul de la marmite, et dans la cendre, du feu, écrivait dans la cendre. Ça, c'est mon enfance. C'est tout ce que j'apprends à la tribu. C'est tout ce que j'apprends de grand-mère est transmis par télépathie. C'est-à-dire qu'il y a toute une tranche d'âge de l'enfant kanak où on ne lui parle pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un langage qui est, quelque part, un langage de transmission, qui est un langage d'éducation quand tu es dans un statut. C'est-à-dire le statut que tu vas avoir. Donc on va t'éduquer dans ton statut avec une façon de faire, de penser, de parler, tout ça. Et moi j'ai reçu voilà, une éducation parce que j'étais quelque part désigné et souhaité pour assumer un statut dans mon clan, dans ma famille. Et qui ne perd en rien avec ce que je fais actuellement parce que mon statut c'est un statut de personne, de personnage de relation. Oui. Je suis déjà dans mon éducation quelqu'un de la relation. J'ai reçu une éducation pour être dans la relation.
Donc dans le projet collectif du clan, de la tribu, est inscrit aussi ce projet de relation comme ce que tu retrouves avec Vissant par la suite.
Tout à fait. C'est ce qui m'a dit qu'il y avait quelque chose là. Il y avait un lien, il y avait un lion. Il y avait un lion. Comme on tresse le filet, comme on tresse les paniers, il y avait quelque chose qui pouvait se tresser avec la pensée d'Edouard Glisson à travers la pensée de Jean-Marie Thibault. Là, je me suis dit que je ne pars de rien, je n'ai pas de filet de protection. Ce que j'avance ne suppose, ne s'appuie ne, sur rien du tout. C'est tout simplement un élan, l'élan d'une pensée qui est exprimée et que j'essaie à ma façon, à ma manière de saisir, de cueillir et de la poser dans un espace qui est l'espace de la page.
Et dans l'espace de la salle et dans l'espace de la relation, peut-être que ça peut nous amener à des questions du public si certains d'entre vous ont des questions, c'est le moment, puisque l'heure tourne, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est un fait. Et... Monsieur.
Oui, quand vous parlez de la pensée de Jean-Marie Thibault, est-ce que vous voyez précisément ce que ça veut dire pour vous ?
La pensée de Jean-Marie Thibault, on a grandi avec lui. On a grandi avec la parole de Jean-Marie Thibault à la radio, à la télé. Quand j'étais adolescent, j'étais pendu à la radio, au journal télévisé, pour écouter ce qu'il avait à nous dire. Les rassemblements qu'il faisait, je faisais tout pour y participer, pour aller, pour l'entendre, pour le voir. Et aujourd'hui, il reste pour moi un père spirituel. La pensée de Jean-Marie Thibault, c'est le premier homme politique, océanien, mélanésien, homme de la coutume, qui projette la pensée mélanésienne, c'est-à-dire qui prend la décision à un moment donné de l'histoire qui est crucial pour la tradition, la culture, mais surtout la tradition et les traditions mélanésiennes dans le Pacifique et pour l'Océanie en général. On oublie que Jean-Marie Thibault n'a pas simplement pensé au peuple kanak, à la Mélanésie, il a pensé pour toute l'Océanie. Jean-Marie Thibault était dans cette force-là, cette force-là d'éclat de sa pensée qui est allée au-delà de notre pays. Et la pensée de Jean-Marie Thibault, pour moi, c'est la parole de la coutume. C'est la pensée de la coutume. C'est l'esprit de la coutume. Jean-Marie Thibault l'a exprimé sous une forme de pensée. C'est-à-dire que chez nous, la coutume, la parole coutumière, la parole des deuils, tout ça pour nous, c'est une organisation structurée au niveau de notre condition, c'est-à-dire spirituelle, morale, tout ça, qui structure la société mélanésienne en général. Et Jean-Marie Thibault a pris ces morceaux-là pour organiser une pensée qui est une pensée projeter dans l'espace de l'écriture, de la littérature et politique. Et c'est une pensée qui est une pensée, on va dire, qui vient de l'origine, hein. C'est la pensée de l'origine qui vient de l'esprit, c'est l'esprit mélanésien, c'est avant tout l'esprit mélanésien, l'esprit océanien.
D'autres questions ? Avant de laisser la place à Paul Wameau, Denis, quels sont tes projets d'édition, si je puis dire, ou d'écriture, puisqu'on a bien compris que tu étais un auteur atypique, parce qu'effectivement, dans le rythme de l'édition, il faut produire, il faut s'inscrire, etc., dans une permanence annuelle, on sort un livre fréquemment, etc. Après 5 ans, et après différentes expériences de contact avec les publics, où est-ce que tu vas en termes d'édition? Quand est-ce qu'on verra un livre, etc.?
Je sais pas. Le jeu est pour moi un sens, mais je vais quand même donner une petite piste, hein, piste de retrouvailles pour ceux qui vont peut-être me suivre demain, je ne sais pas. Et j'ai un projet d'éditer prochainement, oui, ce premier mouvement, ce deuxième mouvement. Pour moi, ce sont des mouvements d'écriture. Le troisième mouvement, donc vous aurez un quatrième mouvement et un cinquième mouvement à partir de ce geste d'écriture que j'offre à partir de ma petite pensée, ma petite réflexion sur l'écriture, du passage de l'oralité à l'écriture en Nouvelle-Calédonie.
Qui n'est pas petite, puisqu'elle englobe beaucoup.
Et je voudrais juste lire un petit poème pour terminer avec vous. C'est un rêve, hein. C'est un rêve, c'est un souhait au-delà du rêve. C'est un souhait de relation, c'est un souhait de lien avec tout ce qui est pensé. Tout ce qui est pensé dans le monde, tout ce qui est pensé à travers la littérature, l'écriture, mais surtout à travers les individus. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne peux pas avoir à l'esprit, à la pensée, tout ce qui se passe avec les réfugiés, que ce soit les réfugiés des guerres, mais aussi les réfugiés climatiques. Dans l'Océanie, le Pacifique aujourd'hui est le premier, comment dire, on est un peu
au premier rang des problèmes climatiques.
Et au-delà de ces choses-là, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir d'aller au-delà du risque que les sociétés prennent, que les individus prennent. Jean-Marie Thibault disait, mais la société occidentale, elle a la technologie. Elle a la connaissance, le savoir de la technologie. Nous, le peuple Kanak, on n'a pas tout ça. Mais on est prêt avec ce qu'on a, le peu de choses qu'on a. On est prêt à participer, on est prêt à aller avec ceux qui sont prêts aussi à nous accueillir. Et c'est la pensée de la relation, c'est la pensée du lien. Et je veux partager avec vous ce petit poème qui s'adresse à ce lieu de théâtre, qui rassemble les genres, qui rassemble les pensées, et par rapport à la France, qui est au-delà de ce grand pays, au-delà de son histoire, qui est le lieu de tous les lieux. À l'heure actuelle, dans le monde, c'est le lieu de tous les lieux où, si nous pouvons participer, si nous pouvons aider, nous, notre petit pays, à participer, à apporter quelque chose au grand monde dans lequel on est, oui, la France est le lieu des relations. La France est le lieu des liens. Et notre petit pays, on est là pour le dire, on est là pour le redire, le répéter, parce que nos anciens l'avaient déjà reconnu avant nous. Nos contemporains l'ont reconnu. Aujourd'hui, notre geste à nous, nos générations, c'est de poursuivre le geste, c'est de poursuivre le lien, c'est de poursuivre la relation. Et cette relation, pour moi, elle se situe au niveau de la poétique. C'est une relation poétique. C'est une relation avec une poétique du monde. C'est une relation avec une poétique de l'humain et de la société contemporaine, on va dire moderne, avec toutes ses complexités. Jean-Marie Thibault est un poète, et c'est sous la pensée de la poétique que je voulais ici faire lien avec Jean-Marie Thibault et Édouard Glissant, le partager avec vous ici pour cette première fois à Paris, en France, pour cette première fois dans ce festival où on est inscrit avec l'Outre-mer, c'est la 5e édition. Je voulais faire ce lien avec l'Outre-mer, avec les Caraïbes, avec l'Afrique, avec la francophonie, à travers Édouard Glissant et Jean-Marie Thibault. Et je vais remercier M. Gérard Lamoureux pour nous avoir permis d'être ici et de partager nos petits mots. Et remercier M. Frédéric Collen, mon ami et frère poète et écrivain, pour toute la profondeur qu'il a soulevée tout à l'heure de l'histoire du Vanuatu, de Quintet, de ces personnages, de ces messieurs qui sont venus, de ces grands hommes qui sont venus un jour, qui ont quitté leur pays, qui sont venus dans le Pacifique, l'Océanie, et qui ont osé penser, créer, construire chez nous. Merci. Merci à ces grands hommes. En pensée à tous ces hommes, à toute cette histoire, j'ai écrit un poème. Et je veux simplement me lever comme ça, dans ce haut lieu, et m'abaisser devant les personnages, les hauts personnages qui sont ici, présents, pour exprimer tout simplement une pensée mélanésienne et océanienne qui je pense, est importante aujourd'hui. Est importante pour moi de l'exprimer avec mes mots, avec ma pensée. Comment est-ce que je pense le monde d'aujourd'hui ? On ne nous a jamais demandé à nous, les Mélanésiens, les Kanaks, comment vous pensez le monde d'aujourd'hui ? On ne nous a jamais demandé comment vous le nommez ? Comment est-ce que vous voulez l'appeler ? Pour justement être dans la relation et dans l'échange. Je veux simplement partager avec vous une pensée qui m'est venue un jour. Parce que je pensais à la relation que mon pays pouvait avoir avec la France, que mon pays pouvait avoir avec l'Océanie, que mon pays pouvait avoir avec l'Afrique, avec les Caraïbes, avec les pays, l'Amazonie, avec les Indiens.
Donc extrait de la Grande Guerre.
C'est important pour moi dans cette relation, dans le geste de la relation. Ça part de la démocratie. Mais de la démocratie telle que je pense en Mélanésie. Et comment je le pense, moi, la démocratie dans le sens de ma pensée, qui est une pensée coutumière, c'est-à-dire de geste de relation. Et cette démocratie-là, je l'ai nommée, parce qu'il fallait que je la nomme, je l'ai nommée symbiocratie. Parce que la démocratie, respect, humilité, honneur à tous ceux qui l'ont pensé, qui l'ont créé, qui l'ont imaginé, mais je ne m'y reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans la démocratie. Pourtant, elle est un pas important dans la pensée de l'homme, dans la pensée des individus, pour, à mon sens, atteindre la symbiocratie. Et la symbiocratie, pour moi, c'est l'élément fédérateur de la relation, des liens entre toutes les sociétés, entre toutes les pensées. Symbiocratie, pluriel tendresse, ton mémorial sourire épanoui de paix légendaire, et pousseront comme de l'herbe au sang coulant de Sèvres, et s'enracineront à tes pieds les anonymes de ta splendeur. Merci à tous, merci de votre présence, merci, merci Denis.
Je viens de là, et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Je viens de là, et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Je viens de là, et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Je viens de là, je suis arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Paul Wamo Tam. Je viens de l'île de Lifou. L'île de Lifou que l'on nomme dans ma langue Djehu. Djehu qui se traduit en français par brûlé. On raconte que mon île, l'île de Lifou, était un petit caillou. Un petit caillou qui surgit de la mer
et fut séché par le soleil. Et plus le soleil chauffait le caillou, et plus le caillou grossissait. Et plus le soleil chauffait le caillou, et plus le caillou grossissait. Et puis poussèrent les premiers arbres, les premières feuilles, les premières branches. Mais ceci est une autre histoire. Et plus le soleil chauffait le caillou, et plus le caillou grossissait. Et plus le soleil chauffait le caillou, et plus le caillou grossissait. Et puis, s'éleva le premier cri. C'est de là que vient mon nom. Je m'appelle Paul Wamotan. Et je viens d'un petit caillou séché par le soleil. Je viens de là. Et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Il y a eu une fusillade aujourd'hui. Vers midi. Dans une rue de Paris. À Paris. Une fusillade en plein Paris. À l'arme lourde. 12 morts fusillés par 2 hommes en noir cagoulés. Moi, j'étais sur mon ordi. Les images tournent en boucle à la télé. Je suis devant la télé. Ils avaient une voiture noire. Ils s'étaient d'abord trompés d'immeuble, puis ils ont trouvé. Ils tirent une balle dans la tête d'un policier à terre. C'était une attaque contre un journal. Charlie Hebdo. Je ne connais pas ce journal. Je ne connais pas l'islam. Moi, je viens d'arriver. 12 morts. Dont 5 caricaturistes célèbres. Ils étaient déjà menacés de mort. Ils caricaturaient Mahomet. Les images continuent de tourner. Avec des hommages aux 5 caricaturistes. Il y a 2 vidéos filmées par 2 téléphones. Une sur le toit de l'immeuble du journal Charlie Hebdo. Une vue d'en haut. Filmée par des employés du journal. Filmée sur le toit. Ils montent sur le toit pour se réfugier. On voit les 2 hommes en noir cagoulés. On entend les coups de mitraillette. Beaucoup, beaucoup. Le chaos vu d'un téléphone portable qui filme d'en haut. La terreur, la mort. Les 2 hommes en noir cagoulés retournent dans leur voiture. L'un des 2 hommes hurle un moment. On ne comprend pas ce qu'il hurle. C'est trop haut. Ça continue. On pense que ce sont des djihadistes. Un acte terroriste. Une fusillade en plein Paris, en plein midi. L'autre vidéo filme d'un autre angle. On voit les 2 hommes en noir cagoulés. Qui sortent de leur voiture. On entend les coups des mitraillettes, le bruit. Et puis un homme à terre, un policier, blessé, vivant. Et puis on voit l'un des 2 hommes en noir cagoulé s'approcher de lui. Et lui qui lui supplie « Non, c'est bon, chef !» Et puis l'homme en noir cagoulé pointe son arme sur sa tête. Puis, coupure. On voit ensuite les 2 hommes en noir cagoulé revenir vers leur voiture. On en voit un qui perd sa chaussure. Et la récupère. On les voit monter dans la voiture. On les voit partir. Et puis ça tourne en boucle à la télé. 2 hommes en noir cagoulés avec leur mitraillette qui tire, qui mitraille, qui tue un policier à terre encore vivant supplie. L'un des hommes cagoulés s'approche puis coupure. Et puis tout d'un coup, comme ça, la speakerine passe à la rubrique recyclage, avec des invités qui parlent recyclage. Je suis perdu. Ça revient. Mm-hmm. 12 morts fusillés dans 5 caricaturistes célèbres. Mm-hmm. Charb, je me souviens que de ce nom sur le 5. Mm-hmm. Moi, je viens d'arriver. Ils étaient connus des Français. Mm-hmm. Ils représentaient la liberté d'expression. Mm-hmm. Ils ont été tués à cause de leur caricature sur Mahomet. Mm-hmm. La France entière est touchée. On appelle à l'unité nationale. Le plan Vigipirate est annoncé. Le président parle à la télé. Il a un débit de merde. Les images continuent de tourner. Mm-hmm. Deux hommes en noir cagoulés avec leurs mitraillettes tirent. Mitraille, tue. On entend le bruit des mitraillettes. Mm-hmm. On entend le cri des deux hommes cagoulés. Mm-hmm. La voix du policier qui supplie. Mm-hmm. Sur le net, on voit la scène non coupée. Mm-hmm. Des journalistes craquent en direct. Mm-hmm. Des images de soutien arrivent de Barack Obama, d'Angela Merkel et d'autres. C'est lourd, c'est glauque. Ça s'est passé juste à côté. J'étais sur mon ordi, à Paris. Une fusillade en plein Paris. En plein midi, et ça tourne en boucle à la télé. Des bruits de mitraillettes, un policier qui supplie et qui fait fusiller à terre une balle dans la tête. C'est horrible. J'éteins la télé. Je pense à mon petit neveu en Nouvelle-Calédonie. C'est un beau petit bébé. Il a juste quelques mois, quelques dents. Je chiale, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Saoumer. Je viens de là, et de là je suis arrivé jusqu'ici. En arrivant jusqu'ici, je suis revenu sur moi-même. En revenant sur moi-même, je suis allé de l'avant. En allant de l'avant, je me suis arrêté. Et quand je me suis arrêté, je suis arrivé jusqu'ici. Dois-je sur cette terre qui déjà tente de se dérober me poser le problème de la vérité noire? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial? Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi, homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit, ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre, il n'y a pas de fardeau blanc. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal, un monde où l'on me réclame de me battre, un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre, moi, homme, dans un monde où les mots se frangent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain, un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre des mondes, des hommes qui cherchent. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Il ne faut pas chercher à fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Je viens de là et de là je suis arrivé jusqu'ici. Des
Des aliénations, je te parle de des aliénations, je te parle de ma peau, de ma peau qu'on expose, qu'on explose, qu'on explique à ma place, de ma race, de mon genre, de ma face, face de black, comme si la peau était une marque d'automobile, BM à gauche, Peugeot à droite, comme si la peau était une plaque pour une place de parking, des, je te parle de, des ailes, parce que les autres, ils me regardent comme ça, comme si je n'avais pas d'ombre, mais la peau, oui, la peau, comme si tout était inscrit sur ma peau, des, je te parle, minorité, toi, là. Allez, dis-moi, comment ta langue joue du tam-tam. Allez, raconte, allez, vas-y, vous êtes tous pareils. Attends, bouge pas. Ne bouge pas. Reste là, bouge pas. Viens pas. Tu bouges pas et tu viens pas. Bouge pas. Je te parle de désaliénation. Dom, pom, chiel blues d'extramarin. Dom, pom, allez, sans peur, pardon. Dom, pom, respiration tendue. Nous, comme des érections fixes, allons jouir feu pour de vrai. Tous les phares qui nous échouent sur même cuisse. Étrangeté, étrangère, démocratie, démocratie, démagrossie, des mots pour dire la République, je te parle de désaliénation.
Rhizome. Nous parlons rhizomes, racinons à l'horizontale des raisons, lignes droites des écritures, tremblement, nous sommes pour un tremblement des murs, pour une envie de rire face à la connerie du genre, t'es comme ci, t'es comme ça, mais t'es qui toi? Rhizome, je rhizome. Et comme disait Fanon, il ne faut pas chercher à fixer l'homme. Moi, pas d'homme, Tom, moi, rhizome. Moi, pas noir, juste noir, noir, juste avec noir, 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 moi. Pas ombre accrochée dans vengeance de l'histoire. Pas bloqué dans le passé, mais en route pour victoire. Rhizome, j'ai la peau rhizome. Moi, je m'appelle Paul avant d'être une zone d'homme, Tom. Avant communauté, je suis continuum. Mon nom manque et mon envie d'être vole. Wamo Abigayao Nassil. Rhizome, je rhizome. Racinal horizontal, à l'envers des étiquettes déchireurs de cartes postales. Si tu veux entendre dans ma langue le sang bandant des tam-tams, je ne pourrai pas te rembourser car je n'ai sur moi que ce bout de slam. Rhizome, j'ai la peau rhizome. Un et multiple, pas juste un dans un seul type. J'ai la racine tentaculaire et l'épiderme multicolore. Ça se voit pas du premier coup parce que l'œil préfère le corps. Alors ne m'encadre pas dans une case, dans un genre ou dans un style. Tout ça parce que c'est trop dur de réfléchir alors que raccourci c'est plus facile. Je ne parle pas au nom des autres. Je ne parle pas au nom de tous. Je parle en mon nom. Je m'appelle Paul. Et comme disait Fanon, il ne faut pas chercher à fixer l'homme, car son destin est d'être lâché.
Je le vois qui marche, Il se pose. Il reprend sa marche. Il ne marche pas comme tout à l'heure. On a l'impression qu'il sue, qu'il est pressé. Il passe à côté de nous. S'assoit un moment. Son visage nous dit quelque chose. Quoi ? Quoi ? On l'observe. D'un peu plus près maintenant. Il s'éloigne. En cours. Il a peut-être besoin de nous, peut-être. Sûrement. On l'observe. Il est un peu plus près maintenant. Un autre arrive. Puis un autre. Ils ont l'air fatigués. Ils ont l'air malades. Peut-être qu'ils sont perdus. Peut-être. On les suit. Ils rigolent. Ils ont un drôle de rire. Est-ce qu'ils rient vraiment? Est-ce vraiment un rire? Excusez-moi, vous avez ri? L'un d'entre eux nous répond. Oui? Il a un drôle d'accent. On s'approche. On écoute. Vous êtes de quel pays? Je me retourne. Je nous vois. Je me vois. Et je réponds. Ici! Je marche. Je marche. Je marche devant moi et derrière moi, je marche. Et plus j'avance, plus je recule, et plus je te vois. Tu me regardes. Et je te vois. Je viens de là. Et de là, je suis arrivé jusqu'ici. Je viens d'hier et d'hier, je suis là maintenant. Bien avant moi-même, je viens d'encore plus loin que moi-même, et d'encore plus loin que moi-même, je suis à prison. Rhizome. Nous parlons rhizome. Racinons à l'horizontale des raisons, lignes droites des écritures. Tremblez. Tremblement. Nous sommes pour un tremblement des murs, pour une envie de rire face à la connerie du genre t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme où, t'es qui toi? Ici, il n'y a pas de place pour les certitudes, les vérités verticales. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Je viens de là, et de là je suis arrivé jusqu'ici. Avant d'arriver jusque-là, je suis d'abord venu au monde depuis le ventre de ma mère. En sortant du ventre de ma mère, j'ai élevé le premier cri. En élevant le premier cri, j'ai poussé mes larmes neuves. En poussant mes larmes neuves, j'ai appris à marcher. Et quand je me suis mis à marcher, je suis arrivé jusqu'ici. Je viens de là, de là. De là, 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 je suis arrivé jusqu'ici. Vous l'avez dit. Pour l'Océanie, et comme disait Frédéric Ollen tout à l'heure, c'est un grand océan, le plus grand océan du monde et le plus oublié. Et dans cet océan-là, on a une archipel qu'on appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui en ce moment et depuis plus de 50 ans subit un génocide. Nous sommes peuple papou. situé dans le plus grand et le plus oublié des océans du monde, l'océan Pacifique, Papouasie occidentale. Nous sommes enfants, femmes, hommes, pères et mères, victimes d'un génocide lent et silencieux, perpétré par le gouvernement indonésien et de son armée lourde, qui dure depuis plus de 50 ans et que personne n'entend. Oublié. On nous a oubliés. Mais nous sommes encore vivants et nous t'appelons. Nous t'appelons. Que notre appel soit entendu et que tu puisses le faire entendre à d'autres. Puis à d'autres. Puis à d'autres. Manifeste. Manifestez. Car à l'instant même où tu m'entends, des milliers d'entre nous sont torturés jusqu'à la mort. Traqués comme des chiens dans leur propre maison. Enfants, femmes, hommes, pères et mères, victimes d'extermination lente, d'une extermination dans le temps, qui dure encore maintenant et que personne n'entend, depuis plus de 50 ans, comme si nos vies ne valent pas la peine d'être sauvées. Alerte génocide en Papouasie occidentale, alerte génocide en Papouasie occidentale, alerte génocide en Papouasie occidentale, mais nous sommes toujours vivants. Vivant toujours et nous t'appelons, nous manifestons, nous résistons comme nous le pouvons avec pas beaucoup, avec même nos lances face aux canons, mais nous résistons, mais nous fuyons, nous résistons et nous mourons. Enfants, femmes, hommes, pères et mères, vie, 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 et nous t'appelons. Que par tous les moyens possibles, notre appel soit entendu et que tu puisses le faire passer à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres. Manifeste, manifestez, car on nous a oubliés. Oublié des médias, oublié des ondes, oublié dans l'océan le plus oublié du monde. C'est peut-être pour ça que tu ne sais pas ce que nous vivons. Alors nous demandons comment. Comment se fait-il que l'on récite par cœur dans les discours, les écoles et sur les murs la mémoire de génocide passé alors que celui qui nous crève est toujours vivant? Comment? Comment se fait-il que l'on érige en monument, en événement qui passe en boucle d'année en année, toujours calé sur la même saison, comme un anniversaire de la mort qu'il ne faut pas oublier alors que nous, nous sommes toujours vivants? Comment se fait-il que l'on célèbre par cœur, à la télé, à la radio, au cinéma et sur les murs, la mémoire de génocide passé alors que celui qui nous torture est toujours présent? Comment? Comment depuis maintenant plus de 50 ans, personne ne nous entend, personne vient nous sauver, comme si nos vies ne valent pas la peine de l'être? Il faut se souvenir de nos morts, mais ne pas oublier nos vivants. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alors nous demandons, faudra-t-il attendre que nous soyons tous morts pour de bon? Notre histoire sera-t-elle dans les livres d'école? Est-ce que nos noms de famille seront gravés sur les murs? Faut-il que l'on tombe maintenant dans l'oubli? Oubli, oubli, comme si nos vies ne valent pas la peine d'être sauvées. Oublié. Alors nous t'appelons. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Le gouvernement indonésien de Joko Widodo et de son armée lourde torture le peuple papou. Je te le dis, en vérité, l'ONU nous a largués à la mort par intérêt. C'est pour cela peut-être qu'on ne passe pas à la télé. Pas comme Charlie et son défilé de dirigeants comme un panneau publicité. Oublié. Alors je vais te dire pourquoi. Pourquoi personne vient nous sauver? Pourquoi personne vient nous filmer? Pourquoi notre appel reste étouffé? Pourquoi dans nos propres maisons nos femmes sont violées? Pourquoi nous résistons même si nous ne sommes pas entraînés? Parce que nous voulons l'indépendance et eux veulent sous le sol. Eux, gangsters multinationales. Banque mondiale de la mort, gouvernement sans queue ni tête, car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or. Il y a de l'or. Nous, nous voulons l'indépendance. Libérer la terre d'où l'on existe, d'où poussent nos origines et celles de nos enfants, notre point de repère, l'ancrage de qui nous sommes, notre maison mère, le lieu d'où poussent nos façons d'être, notre définition même, Papoua Merdeka.
Nous voulons que l'étoile brille. Mais eux veulent sous le sol, alors ils nous enterrent. Car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or. Il y a de l'or. Alors ils creusent nos tombes. Ils creusent bulldozers, arbres et forêts, crachant sous rivières et cours d'eau pour remplir encore et encore et encore leur magot d'or. Voilà pourquoi, depuis plus de 50 ans, notre appel reste étouffé. Car sous le sol de Papouasie, il y a de l'or. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Freeport et compagnie violent salement le sous-sol de Papouasie sous couvert de l'ONU qui se moque bien de nos vies. Vie, je te le dis, en vérité, ils nous refusent l'indépendance parce qu'ils veulent notre sous-sol. Et comme nous résistons, alors ils veulent nous enterrer. Mais vivons, 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 nous sommes toujours vivants et nous t'appelons que notre cri se fasse entendre et que tu puisses le faire après à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, que par tous les moyens possibles notre appel soit entendu, que de manifeste en manifeste, eux finissent par trembler. Car pour cette espèce d'assassin pilleur de sol qui creuse tombe de notre humanité, d'instances meurtrières déguisées en gouvernement démocratique, en gouvernement juste, en instance pour la paix. Pour eux, l'image est primordiale. Toujours avoir une bonne image à calculer, à faire circuler jusqu'à nous aveugler. Pour être bien vu de tous, et pour que tous ne voient pas tout. Pour garder silence et pouvoir continuer. Alors plus nous serons nombreux à dire leur nom, à dire ce qu'il nous creuse, plus nous serons nombreux à l'exclamer sur tous les toits du monde, sur FB, Twitter, école, mur, télé, sur toutes les ondes, plus nous serons nombreux à les pointer du doigt d'une même fronde, plus eux auront peur de continuer. Et même si tout ça, ça ne suffit pas, sache que même dans nos forêts, en Océanie, dans le plus grand et le plus oublié des océans du monde, en Papouasie occidentale, nous continuerons de lutter, de mourir. Nous continuerons de t'appeler pour que nos vies soient sauvées. Enfants, femmes, hommes, pères et mères. Nous sommes peuple papou et nous t'appelons. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Alerte génocide en Papouasie occidentale. Sur Facebook, il y a un compte appelé SOS Papouasie. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Il est tenu par un journaliste français appelé Philippe Pateau-Sélarié. Et nous préparons très prochainement des actions pour faire connaître ce génocide ici en France, à Paris en tout cas, pour commencer. Donc voilà, ça c'est juste un petit appel. Un court appel ou un petit appel. Merci beaucoup.
Pas de questions, il a posé des questions.